Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Il y a 10 ans, on diagnostiquait à Pierre de Cabissol une sclérose en plaques. 10 ans plus tard, Pierre raconte par où il est passé, et ça donne un récit brut de décoffrage, rugueux, un peu cynique, et une belle histoire d'amour. Il sera là tout à l'heure. J'ai tiré ce récit de son livre qui paraît chez Grasset, et Vivre encore. Bettina Servant m'a aidé à l'écrire, réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
On n'est jamais si malheureux qu'on croit, ni si heureux qu'on avait espéré. François de La Rochefoucauld. Je joue au volley, les mardis et jeudis à la SPTT. Le mardi, j'arrive toujours en avance. Je vais faire quelques tours de piste sur le stade à côté du gymnase. Il bruine, mes jambes sont lourdes. Je me sens pâteau, fatigué, au ras du sol. Et ça se confirme sur le terrain de volley. Une impression d'avoir les pieds cloués par terre.
Eh bien Pierre, faut se bouger un peu, hein ?
C'était le dernier entraînement de la saison. Avant de rentrer chez moi, je leur dis...
À l'année prochaine !
Je ne les ai jamais revus. Je venais de créer ma société de films d'animation avec 3 associés. Premier contrat, première cliente agressive... Je quitte Paris dans le stress pour Contis, dans les Landes. Mon spot, mon paradis, je fais du surf depuis toujours. Je suis assez bon, hein, surtout sur les grosses vagues. Je me mets à l'eau. Au moment de monter sur la planche, je ressens la même pesanteur que sur le terrain de volley. J'arrive à me lever sans problème, mais je peine à pousser ma planche. Je peine à enclencher, à finir les mouvements. Des trucs que j'ai fait 1000 fois. Ça ne passe pas. Je rentre à l'appartement, je vois la scène, hein. Je suis sur la terrasse de l'appartement de mes parents, face à l'océan. Un verre de rosé dans la main et un pétard dans l'autre. Et je suis avec mon père au téléphone.
Tu vois, c'est vraiment bizarre, hein, papa. J'arrive pas à surfer, j'y arrive pas.
C'est ton scooter à la con, hein. Tu te déplaces plus assez à pied, faut pas que tu t'étonnes, hein.
Autour, les copains se marrent. J'en ai tellement rajouté sur mes qualités de surfeur. J'y suis retourné le soir, jusqu'à 8 heures passées. J'ai enquillé quelques tubes au bord de la plage. Ce furent mes dernières vagues, dignes de ce nom. Ma cousine Maïlis est médecin. Je me souviens, on est à la Goutte d'Or à Paris, elle marche derrière moi, je me retourne et je vois qu'elle m'observe marcher.
T'as le pied qui traîne, hein ? T'accroches le sol parfois. Je me demande si c'est pas à cause du fait que tu portes des tongs tous les jours. Bon, je vais quand même te prendre un rendez-vous à l'hôpital Saint-Joseph. J'hésite entre orthopédie ou neurologie. Je vais appeler une copine qui est en neuro.
Elle est forte, ma cousine. Mais tout de même, passer d'un problème de tongs à une suspicion de maladie neurologique... Je suis parti en week-end en amoureux. À Étretat. Elle avait réservé un hôtel au bord de la mer. On a grimpé jusqu'à l'église, et en redescendant, ma jambe droite a plié, ou je me suis pris les pieds dans un caillou, je sais pas, je suis tombé. Je me suis dit, il y a un truc qui cloche. En quittant Étretat, elle m'a dit à l'oreille, « Je t'aime. » Je lui ai répondu, « Moi aussi. » « Moi aussi, mais je pars. Je dois partir à Bali, et après, en Colombie pour un tournage de film. » J'ai rendez-vous à l'hôpital Saint-Joseph le mercredi suivant. Département de neurologie avec le docteur Crașiunescu. Brune, raide.
Vous vous sentez fatigué ces derniers temps ? Allez-y, respirez fort. Toussez ? Bien. Levez la jambe ? Moi je pense qu'il serait pas inutile de faire une IRM. Hein ? Ah mais je dois partir à Bali dans 4 jours et après en Colombie pour 3 mois. Je pourrais peut-être le faire après, non ? Non, vous devez le faire tout de suite, je les appelle.
Je vais donc à l'IRM tout de suite. Et après, Je vois le radiologue à travers la vitre. Il tient un stylo à la main, il l'agite devant un écran ouvert sur mon cerveau. Je me dis, c'est pas bon ça. Il m'appelle, il me fait asseoir, il prend une grande respiration. Il va parler et puis il se ravise. Ça craint ça. Bon, alors d'abord c'est pas une tumeur, hein. Mais il y a des signes de lésion au niveau du cerveau et de la moelle. Vous voyez là les traces blanches? Bon, cela dit, je suis pas habilité à faire le diagnostic, hein. 12 ans d'études, pour être juste autorisé à dire « Bon, il y a quelque chose ». Retour à l'hôpital, la neurologue regarde mes clichés, elle me regarde, puis à nouveau les clichés. Moi, je mâche discrètement un chewing-gum. Alors, vous voyez ces lésions ici, ici et ici? Elles indiquent une sclérose en plaques. Et pan! C'est une maladie auto-immunitaire qui s'attaque au système nerveux. Alors il y a des traitements hein, qui permettent de ralentir la progression et de soulager d'éventuelles douleurs. Mais à ce jour, il n'y a pas de médicaments qui permettent de guérir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis censé partir pour Bali dans 4 jours et... Et après, je vais en Colombie pour le travail, je dois y rester 3 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas une bonne idée, je pense, hein. Je vais vous faire hospitaliser immédiatement, 3 jours. On va vous faire des injections de corticoïdes pour la douleur. Oh là là, et tout doux, hein. J'ai pas mal du tout. Peut-être une légère pointe dans le bas du dos, peut-être. Les corticoïdes vont calmer la poussée, hein. Là, en ce moment, vous vivez ce qu'on appelle un épisode de poussée. Il y en aura d'autres. Et elles peuvent laisser des séquelles ou pas. Je viendrai dans votre chambre et on prendra le temps de détailler tout ça, d'accord? Elle n'est jamais venue dans ma chambre. Je sors du bureau. Je m'assois sur une chaise. J'ai 28 ans. J'appelle d'abord mon associé.
Ça va?
Bof. Je sors de l'hôpital, j'appelle ma mère.
C'est la vie, Pierre.
Putain, maman! Enfin, j'ai 28 ans! C'est pas la vie, non! C'est la merde! J'appelle Clem.
Oh, putain!
Et donc, je vide le sac que j'avais préparé pour Bali. J'enlève les maillots et la combi de surf. Et j'y mets les vêtements pour l'hôpital. On me met une première perfusion. L'infirmier qui me la pose est en formation. Il s'y prend à 3 fois avant de trouver la veine. Oh, oh, c'est merveilleux, les corticoïdes. C'est comme la cocaïne, mais sans effet secondaire. Mon père et ma mère sont arrivés de Contis en voiture. Je me demande bien ce qu'ils ont pu se dire pendant 8 heures. Ils n'ont pas dû beaucoup manger et s'arrêter juste pour prendre de l'essence. Quand il arrive, mon père s'évanouit, pouf, entre le fauteuil médicalisé et mon lit. Et pourtant, c'est un costaud, hein. Quand il reprend ses esprits, il a un peu honte. Ma mère, elle, c'est un roc, avec une indéfectible intuition que tout ira bien. Et puis mon frère arrive. Et puis mon grand ami, Olivier. Et puis Aurel, Mathieu, Boubou. Et bien sûr, elle. Et elle reste. Et on va dîner au restaurant dans le coin. Et quand j'entre, je me fais sacrément engueuler.
Vous n'avez pas le droit de sortir sans prévenir, hein?
Quand on se sent pas malade, on n'agit pas comme un malade. Bon, bah puisque ça sera pas Bali, ça sera l'Aveyron. Ça a son charme, hein, mais sans elle. J'ai besoin d'amitié simple, pas de sentiments. Par texto, elle me dit « Je m'excuse de ne pas avoir réagi comme il fallait quand tu m'as annoncé le diagnostic. » Alors qu'elle a réagi exactement comme il fallait. Avec Jean-Marc, on tire une dernière fois une corde entre 2 arbres pour faire office de filet de badminton et on joue. Heureux moment perdu. De passage à l'hôpital Saint-Joseph, je demande à une jeune neurologue.
À votre avis, je vais pouvoir continuer à faire du surf?
Ça peut être un objectif. Il y a quelques jours, c'était toute ma vie, et maintenant, c'est un objectif. Je n'ai jamais imaginé de vivre sans surfer. Tout mon plan de vie était dédié au surf. Si j'ai choisi un métier artistique, c'est par goût, mais aussi pour profiter pleinement du statut d'intermittent du spectacle, pour surfer. Naturellement, je me pose la question de la justice et de la culpabilité, et donc du châtiment et donc de Dieu en ce qui me concerne. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je cherche, je creuse. Oui, je me souviens, quand j'étais petit, un jour j'ai jeté mon manteau sur une fille assez laide dans la cour et j'ai crié « Un thon ! J'ai pêché un thon !» C'est peut-être ça. Mais ça serait disproportionné. Je n'ai pas été fidèle non plus. Ça plaît pas beaucoup à Dieu. Et il m'est arrivé de piquer la copine d'un ami, ou plutôt de l'emprunter quelques heures. C'est pas bon pour le karma. Dieu me le fait payer. Ou alors c'est la faute à pas de chance. C'est d'ailleurs ce que disent les médecins. Hein. Mais alors à qui s'en prendre? À qui en vouloir? Je suis quand même parti en Colombie pour tourner le making-of d'un film de Sophie Marceau. Et j'ai laissé ma maladie en France. J'y suis resté 3 mois. Et la veille de mon retour, j'ai vécu une poussée très pénible. Dans l'avion d'Air France, je me souviens que mes genoux brûlaient au contact du siège de devant. C'est quand même étonnant que cette poussée soit arrivée juste après le clap de fin du film. Et donc, me voilà en France. Nouvelle hospitalisation, nouvelle salve de corticoïdes, et la douleur qui s'installe en moi sans rémission, jusqu'à aujourd'hui.
Sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal comment, monsieur? 3 ou 4, je sais pas trop.
Je suis pas du genre à me plaindre. Ma douleur, je dirais que ce sont des brûlures pour la chaleur et des fourmis, comme quand on a pris longtemps une position inconfortable. Les deux en permanence depuis 10 ans. C'est usant. Pour dormir, je suis devenu un junkie. Je prends du Rivotril, des petites gouttes bleues dans un flacon brun. J'ai commencé par 3 gouttes avant d'aller au lit. Aujourd'hui, j'en prends 10. Et si j'en prends pas, je suis en manque. C'est effrayant. Et puis, il faut que je vous parle de mon pénis. Après toutes ces années à vivre ensemble, je m'y suis attaché. Lui, il ne sent pas de douleur, hein, mais il ne sent plus rien. C'est une sorte de masse qui bat entre les jambes, un vide plein. Quand on est jeune et qu'on aime la bagatelle, il faut donc des ajustements. Mon problème, c'est pas de bander, hein, ça je bande, mais c'est de garder la bandaison. Or, je débande à la moindre déstabilisation, au moindre faux mouvement. Et donc j'ai découvert le Viagra, ou plutôt en ce qui me concerne, le Cialis. Et ça marche, hein? Ça marche formidablement bien. La seule contrainte, c'est de prendre la petite pilule au minimum 30 minutes avant le rapport. Et donc, il faut dire à son conjoint qu'on a envie de faire l'amour dans 30 minutes. Elle m'a dit un jour.
Bah écoute, t'as qu'à partir du principe que j'ai envie tout le temps.
Elle est très compréhensive. Elle-même, je pense. Je suis allé surfer une dernière fois à Contis au réveillon. Il faisait gris, presque noir, pluvieux. C'était le temps idéal pour enterrer les rêves. Je ne suis pas arrivé à me lever. J'ai pris 3 petites vagues, je suis tombé 3 fois. Je regrette d'y être allé, c'était inutile. Je ne surferai plus jamais. Je ne me baignerai même plus dans l'océan. Je me baignerai dans des baignoires, dans des piscines. Mais plus dans l'océan. Je suis assez vénard sur un point. Je peux continuer à travailler. Serveur, je ne pourrais pas. Chauffeur de taxi, je ne pourrais pas. Médecin, tenir debout, toujours penché, impossible. Mais dans mon métier, par chance, on travaille assis. Je fais des dessins animés, ou plutôt, je co-dirige une entreprise qui fait des dessins animés. Je suis vénard. Je travaille avec des artistes, jeunes pour la plupart. Ils me tiennent en vie. Ils me tiennent en prise avec notre temps. Ils m'insufflent un peu de leur énergie. Dans une rue du vieux Montpellier, je lui dis « Allez, vas-y, on habite ensemble. Même si je peux pas m'empêcher de dire, dans quelques années, quand je serai invalide, est-ce qu'elle sera toujours heureuse de vivre avec moi, hein? Est-ce qu'elle sera avec moi par amour ou par devoir? Est-ce qu'elle sera libre de ne plus m'aimer ?» Je n'aime pas que j'en parle, mais la gestion des sphincters est une question essentielle dans le cadre de la sclérose en plaques. Quand on pousse aux toilettes, en fait on contracte des muscles grâce à une information nerveuse qui vient du cerveau et qui dit aux muscles « je veux que tu te contractes ». Mais quand les nerfs sont atteints, tu peux pas te retenir et tu peux pas non plus courir aux toilettes. Alors il y a des accidents. Elle n'aime pas que je parle de ça, mais... ça me fait du bien de désacraliser. Un jour, par exemple, je descends de chez Jean-Jacques et Marion. En fermant la porte, je me dis, j'ai mal au ventre. Eh bien, 5 étages plus bas, je défèque dans mon jean. Et donc, je vais dans leur arrière-cour. J'enlève mon jean qui sent la mort, mon caleçon qui sent la mort de la mort, et je sais pas quoi faire. Alors, j'enlève mon t-shirt et mon sweatshirt, et avec mon t-shirt, j'essuie mon jean. C'est difficile de sortir de l'anecdote quand on parle de cette maladie au long cours. Les poussées, par exemple, les crises inflammatoires. C'est un moment où tout part en vrille, en mode Armageddon. Ça n'est plus un long déclin, c'est un déraillement. Pour moi, ça se traduit par une fatigue intense, une difficulté à marcher plus importante, des douleurs décuplées, presque insupportables. Et à chaque fois, ça laisse des séquelles. Mais moi, en plus... je n'ai pas la variante pépère cool de la maladie. Ma sclérose est progressive, c'est-à-dire que même sans pousser, je décline quand même. Il y a comme un entonnoir de pas de bol autour de ma maladie. La sclérose en plaques touche 70% de femmes. Je suis un garçon. La maladie touche moins de gens qui ont grandi au soleil. J'ai grandi à Montpellier. L'Avonex est un médicament qui marche sur 65% des malades. Eh ben pas sur moi. Et l'interféron marche pour 65% des malades sur lesquels l'Avonex ne marche pas, eh ben pas sur moi. En revanche, la pire version de la maladie, la version dite progressive, eh ben c'est la mienne. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que tout a un sens ou plus sûrement parce que j'ai pas de bol? J'ai vu Guillaume Canet à la télévision. On l'interroge sur son dernier film. Il a une barbe parfaite de 3 jours, les cheveux courts, l'œil pétillant dès qu'il sourit, des jolies rides sur les joues qui disent la maturité plus que l'âge. Et me voilà jaloux. D'un coup d'un seul, plus que jaloux même, je le hais. Il est beau, il a l'air sympa, il fait l'amour avec Marion Cotillard, et quand il a fini de faire l'amour, il peut recommencer. Je hais de tout savoir de son bonheur et qu'il ne sache rien de mon malheur. C'est absurde, hein, la haine. Je suis sûr qu'il a aussi ses drames. Mais je le hais et je ne compte pas m'excuser. Elle veut un enfant. Aménager ensemble a déjà été un pas monumental pour moi. Alors un enfant... un jour, on est à Ikea, au beau milieu de l'escalator. Je sais pas si c'est la lumière ou la musique, je lui dis. Eh ben, ok. Faisons un enfant. Si c'était pas maintenant, c'était jamais. Elle en est soufflée. T'es sûr? Ben oui, je suis sûr. Alors, elle m'embrasse. Et on est donc reparti d'Ikea avec 2 bougies à la vanille, des fourchettes et un projet d'enfant. Faites attention aux escalators d'Ikea, hein. Ils ont la capacité de bouleverser les vies. Elle arrête la pilule en août Elle tombe enceinte en septembre. Et pour le coup, on est chanceux. Au milieu du mois de juin, on se couche. Je prends mes gouttes de Rivotril, qui m'envoie au royaume des songes en mode TGV. J'ai à peine le temps de plonger.
Réveille-toi! Réveille-toi, j'ai perdu les os!
Moi, je suis sacrément défoncé.
Ça peut pas attendre demain, non?
Ben non!
Il a fallu que je me concentre pour ne pas sortir la Twingo de la route, hein. On arrive à l'hôpital, elle est prise en charge. Je m'assois à côté d'elle et je m'endors comme un sac. Et puis, alerté par un brouhaha, j'ouvre les yeux. Et là, je la vois se faire soulever de son lit et poser sur un brancard, nu comme un ver.
« Ok, le bébé va pas bien, il est en insuffisance respiratoire. Il faut faire une césarienne, en urgence. Vous voulez assister à l'accouchement, monsieur ?»
On n'a pas vraiment tranché cette question. Là-dessus, un aide-soignant revient avec une blouse, des surchaussures et une charlotte.
« Suivez-moi. »
J'attrape ma béquille, il va trop vite.
« Entrez. »
Finalement, je n'assiste pas à la césarienne. Quelques minutes passent. Un gars arrive avec une couverture, un petit baluchon qu'il me donne.
« Tenez, prenez, restez là. »
J'attrape le truc.
« C'est votre bébé. Félicitations. »
J'ouvre le baluchon et je reste là peut-être 20 minutes dans cette salle blafarde avec une petite fille qui hurle dans mes bras. Et je sais pas quoi faire. Je sais même pas si elle va bien. Je suis toujours dans le coltard, j'arrive pas à en sortir. Si j'avais des jambes, j'apprendrais à surfer à ma fille, comme mon père me l'a appris. Voilà donc, Pierre de Cabissol, le récit que j'ai tiré de votre livre qui paraît chez Grasset, « Et vivre encore ». C'est un livre étonnant, c'est une démarche assez étonnante. On a un peu l'impression que vous avez ouvert une vanne au bout de 10 ans et qu'un flot est sorti de cette vanne et que ça a donné ce livre.
D'autant plus quand je vous entends le raconter, j'avoue que je me rends compte que j'ai écrit des choses qui, lorsqu'on les dit à votre son, peuvent paraître un peu choquantes et que même moi j'ai du mal à écouter parfois. Mais oui, il y avait un besoin à 10 ans, à N plus 10, de regarder un peu en arrière avant que j'oublie potentiellement les événements. C'était important de le faire, ça m'a fait du bien de le faire et ça a aussi aidé les gens autour de moi à mieux me comprendre, à mieux comprendre ce que je vivais.
C'est pour qui ce livre? Pour les autres malades? Pour Mao, votre fille, puisqu'elle a un prénom?
Très égoïstement, c'était pour moi d'abord, parce que j'ai pris du plaisir à le faire. C'était pour pousser un cri, un coup de gueule aussi, parce que j'étais hospitalisé dans un endroit où on me mélangeait avec des patients qui étaient l'image de ce que j'allais devenir dans quelques années, et je comprenais pas qu'on puisse soigner mon corps, mais briser mon cerveau en m'imposant la vue de ces gens. Et j'avais besoin d'en parler. Mmh. Après, non, je peux pas dire que je l'écris pour les autres malades, parce que je pense chaque malade de la sclérose en plaques a une sclérose en plaques différente. Donc chacun, il trouvera sûrement une partie de choses qu'il a vécues, mais pas tout ce qu'il a vécu.
Vous en fréquentez d'autres? Vous tenez à en fréquenter d'autres, ou alors vous en fréquentez au hasard des hospitalisations?
J'en fréquente au hasard des hospitalisations. Je fais de la chimiothérapie, donc je suis souvent à l'hôpital pour des hospitalisations. Mais par exemple, l'autre jour, j'étais avec un monsieur qui avait très envie de parler dans ma chambre.
Ouais.
Moi, j'avais pas très envie de parler, il voulait tout savoir de ma vie. Par chance, j'avais un exemplaire du livre dans mon sac, je lui ai donné l'exemplaire, j'ai dit, écoutez, lisez le livre,
tout
parce que tout est là, j'ai pas envie, là.
Le ton est assez pince sans rire, il est même un peu cynique, parfois. C'est votre style, avant.
C'est mon style, c'est comme ça que je suis dans la vie.
Oui, ouais, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on pressent. Mais c'est assez commode, ça permet d'évacuer des choses, et puis de faire passer des messages, et d'aller sur des terrains où on voit pas d'habitude. L'histoire des sphincters, bon, il y a un côté dérangeant dans cette scène, évidemment, elle est très intime. Et je me disais que sans doute vous n'aviez pas prévu qu'on la lirait un jour à voix haute, et que peut-être elle passerait dans l'épaisseur du livre.
Oui, c'est vrai que l'entendre raconter par vous, c'est assez étonnant. Après, voilà, c'est la vie du malade et on n'a pas à avoir honte de ce qu'on est quand on est malade. Voilà, j'ai un corps qui défaille et c'est comme ça. Je ne vais pas faire semblant que tout va bien. Donc, il y a des choses qui ne vont pas bien, il y a des choses qui ne sont pas glamour. Et peu importe, c'est peu de choses des sphincters qui lâchent par rapport au fait de pas pouvoir porter mon enfant dans mes bras ou des choses comme ça, c'est anecdotique.
Le livre est sorti au mois de mars dernier, je suppose que vous l'avez fini il y a à peu près un an,
oui.
Et livré à votre éditeur. Depuis, l'évolution a été classique.
Oui, assez classique, comme vous l'avez dit, et comme je l'explique dans le livre, c'est une sclérose en plaques progressive, donc il n'y a pas d'événements extraordinaires qui arrivent, c'est un lent déclin auquel il faut se faire. Parfois, on voit, quand on va en vacances quelque part un été et qu'on y retourne l'été d'après, on se dit, eh ben tiens, c'était ces deux marches-là, je les montais sans problème l'été dernier, là je ne les monte plus. Mmh. On se rend compte à des petites choses comme ça, mais au quotidien, on ne se rend pas compte du déclin.
On vous donne des échéances. C'est-à-dire, on vous dit, par exemple, là, vous marchez aujourd'hui avec une béquille. Ça, j'ai pas eu le temps de le raconter, mais c'est votre combat. Vous avez gardé la canne le plus longtemps possible. Vous êtes passé à la béquille le plus tard possible. Et évidemment, maintenant, c'est le fauteuil que vous repoussez le plus longtemps possible. Mais il y a des échéances. On vous dit, dans 2-3 ans, vous serez en fauteuil ou...
Pas vraiment, parce que le neurologue, le pauvre, il fait un métier pas terrible. C'est qu'il est hyper intelligent, il a fait vachement d'études, mais il sait rien sur rien.
Ouais.
Parce que c'est des maladies qui touchent au cerveau, c'est extrêmement complexe. Et donc, il se prononce pas, les neurologues ne se prononcent pas. Et donc, il n'y a pas d'échéance. Le seul neurologue qui s'est prononcé un jour, il aurait mieux fait de fermer sa bouche. Mmh. Il est rentré dans ma chambre et il m'a dit, il se passera rien avant 10 ans. Et si on guérit votre maladie, c'est qu'on aura déjà guéri toutes les autres maladies.
Mmh.
Donc, je lui ai dit, c'était pas la peine de venir me voir pour me dire ça, en fait. C'était pas utile.
On s'accroche à l'idée d'un progrès de la science qui viendrait arrêter l'histoire.
Alors moi, je m'accroche à presque de la science-fiction, en fait. Je ne suis pas transhumaniste, ou même, je me font peur les transhumanistes, mais l'idée potentiellement d'exosquelettes, ouais, des choses comme ça, des assistances à la personne qui pourrait faire à la place du corps ce qu'il est plus capable de le faire, c'est des choses auxquelles je pense, qui me font peur, même pour l'être humain en général. Mais arrivé à un moment, moi, ce que je veux, c'est resurfer un jour. Donc, si on me dit, pour que tu puisses resurfer, on va te greffer dans la tête des petites électrodes, et bon, elles seront toute ta vie, on pourra te checker à distance que tout va bien. Je sentirais bien qu'il y a un truc qui n'est pas cool, mais si en échange de ça, je peux resurfer, ça ira.
Il y a un deuxième enfant qui arrive.
Oui.
Pour bientôt.
Vous êtes hyper au courant.
C'est pas dans le livre pourtant. J'aurais qu'on retourne au début, parce que je me mets un peu à la place. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé ce week-end en fait. Je marchais sur la plage et j'ai senti des lourdeurs aux jambes. Alors, j'avais commencé à écrire votre histoire. Voilà, qu'est-ce qui peut distinguer une fatigue aux jambes de ce que vous avez ressenti vous? Que les gens ne s'alarment pas pour rien, que tout le monde ne court pas chez son neurologue.
Moi en l'occurrence, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'aller me promener avec ma cousine qui est médecin et qui sait détecter quand il y a des choses qui ne relèvent pas de la simple fatigue et qui a vu que j'avais un pied qui accrochait au sol. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Il y avait eu d'autres éléments avant, comme vous le disiez dans ce que vous racontiez. C'était d'abord le surf, puis le volleyball, enfin le volleyball puis le surf. J'avais senti, mais bon, on a 28 ans, on se dit bon, je suis un peu fatigué. Je m'étais dit, c'est l'humidité, je m'étais dit, bon, le surf, c'est vrai que à la reprise, c'est toujours difficile après avoir arrêté pendant 8 mois. Donc, c'est des petites choses jusqu'au jour où, ça, le verdict tombe, quoi.
Votre réaction au diagnostic, elle est intéressante, c'est la fuite. C'est-à-dire, vous lui dites, moi, écoutez, on verra plus tard, je vais partir, je dois aller à Bali, ensuite, il faut que j'aille faire ce tournage en Colombie. C'est vous, ça, ou vous pensez que c'est tout le monde?
Non, ça dépend. Il y a des gens qui s'effondrent. J'ai vu des gens s'effondrer. Ma réaction, c'était le déni. Je vais pas mentir. J'ai pas nié la maladie, j'ai nié sa gravité.
Mmh.
Et donc, je me suis dit, ok, je suis malade, mais bon, ok, j'ai un pied qui rip, c'est pas grave. J'ai un peu mal à droite, à gauche, mais je vais continuer. Après tout, pour l'instant, tout va bien, quoi. Et je vais continuer à vivre.
Normalement.
Normalement, ouais. Mais j'ai vu des. Ça dépend de chacun. Après, peut-être que je suis un peu plus costaud, ou bien c'est une. Je dis souvent, c'est une stratégie de pas se plaindre, c'est une stratégie de nier un peu le réel.
Mais c'est utile.
Mais c'est utile. Moi, je trouve ça utile parce que les gens admirent ça. De cette admiration, je tire la force d'aller de l'avant. Et c'est plus agréable d'être admiré que d'être plaint.
Alors, il y a votre passion pour le surf qui est un truc bien, bien intéressant. Je suis sûr que des tas de gens, évidemment, à l'écoute, peuvent se dire, il en fait des caisses. C'est une activité comme une autre. C'est pas plus le surf que le foot, plus le foot que le rugby, etc. En vérité, moi, je n'ai jamais fait de surf, mais je viens d'un pays de surf, le même que le vôtre d'ailleurs. En fait, le surf, c'est plus qu'un sport. c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que ça englobe tout le reste de l'être.
Oui, tout à fait. Bah, le surf, ce sont des sensations, parce que aller surfer, quand on va surfer, on va pas juste faire un sport, on va dans un élément qui est pas le nôtre, on va dans des odeurs, les odeurs de la mer qui sont pas celles qu'on ressent tous les jours. On va retrouver au pic, c'est-à-dire là où les vagues vont être amenées à casser des amis, on va discuter avec eux. C'est un sport dans lequel on discute avec les personnes. C'est un sport où il n'y a pas d'adversaire, où il y a juste une partenaire qui est la vague, où on est dans l'océan. Enfin, c'est tout un état d'esprit.
Ça, c'est important. C'est un sport où il n'y a pas d'adversaire. Il n'y en a pas beaucoup, des sports comme ça.
Ben, c'est très rare, oui. C'est un sport où on est seul face à soi-même. C'est un peu... Moi, je compare souvent avec la danse. Notamment quand la danseuse qui se blesse et qui ne peut plus danser, elle a tout donné à ça et c'est un peu c'est terrible pour elle. Ben, le surf, c'est un peu comme ça. On est seul face à soi-même, on se fixe ses propres objectifs qualitatifs. Et quand on ne peut plus le faire, c'est terrible, on est tout seul. Et puis, bon...
Qu'est-ce qui se passe sur la vague qui est si douloureux à abandonner? On a le sentiment qu'il y a un côté rinçage du cerveau aussi. C'est-à-dire que le cerveau est complètement lavé par les vagues et que ça fait du bien physiquement et psychiquement.
Ben, la vague, il n'y a pas beaucoup de choses comparables, c'est-à-dire on glisse, ça bouge, ça fait du bruit, ça soulève une odeur iodée qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. La vague cache parfois le soleil, donc il y a des ombres particulières. Sur la vague, on capte des morceaux de la vague, on capte aussi des regards d'autres surfeurs qui remontent, et on peut voir dans leurs yeux qu'ils sont en train de se dire « Ah, il est en train de kiffer grave, lui, j'aimerais bien être à sa place ». On peut se prendre des gamelles violentes. Donc il y a aussi un peu le danger dans les grosses vagues. Enfin, c'est tout un mélange de choses qu'on peut retrouver dans les sports, c'est pas un sport extrême, mais dans les sports un peu comme ça, dans les sports de glisse déjà, que moi je n'ai retrouvé nulle part ailleurs et que je ne retrouve nulle part ailleurs. Et d'ailleurs,
vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé un dérivatif du même, tonneau.
De cette qualité-là, non. Je me suis mis au handiski qui est un super sport.
Oui.
Mais ça reste, il faut mettre...
En ski, c'est un fauteuil fixé sur des skis. C'est un fauteuil fixé,
ouais, exactement. Ouais. Ouais. Mais ça reste, il faut mettre une combinaison, il faut mettre des gants, enfin tout comme au ski, plus on est assis dans un fauteuil.
Ouais.
Et le surf, c'est juste son maillot, sa planche et soi, et on est bien.
Votre fille, c'est un dérivatif ou pas?
Ma fille, c'est beaucoup mieux que le surf.
Bon.
Non, ma fille, c'est encore autre chose. Mais comme je dis dans le livre, oui, j'aurais aimé lui apprendre à surfer, mais on fait d'autres choses et on construit une relation qui est différente de celle que j'avais imaginée, étant jeune homme, mais qui n'est pas moins bien.
J'ai été très intéressé, évidemment, par la question de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est en général très spécifique d'une éducation chrétienne. Vous ne le dites pas, mais on le sent, vous êtes catho.
J'ai fait mon éducation, j'ai dû, de la maternelle au CM2, j'ai grandi chez les jésuites.
Ouais.
Et puis je suis d'une famille française typique, catholique, même si mes parents sont pas pratiquants. En tout cas, j'ai une éducation judéo chrétienne clairement.
Mais c'est fou comme les cathos vous mettent dans la tête cette idée que s'il vous arrive un malheur, c'est que vous, d'une certaine manière, vous l'avez mérité.
C'est qu'on l'a mérité, et c'est terrible parce que c'est dégueulasse en fait de dire ça. Parce que il y a tellement de gens qui arrivent des horreurs,
ouais,
bien pire que ce qui m'arrive,
ouais,
que c'est terrible d'inculquer ça déjà très jeune, et puis que ça reste toute la vie, comme quoi on serait fautif depuis...
Faut porter sa croix.
Voilà, faut porter sa croix, et depuis le péché originel, on est tous fautifs.
Alors, ce qui est très intéressant, moi j'ai trouvé, c'est que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est que vous avez martyrisé une petite fille dans la cour de l'école, qui était très laide, et vous avez dit, j'ai péché un ton. Et c'est une scène d'une violence terrible, et ce qui est incroyable, c'est qu'elle vous a marqué, et qu'au moment où vous avez votre sclérose en plaques, cette scène revient.
Ouais, elle revient, je sais pas, 15, 20 ans plus tard, ouais.
C'est dingue.
C'est dingue, parce que c'est une scène qui a... Enfin, les gens qui l'ont vécu ont beaucoup rigolé, mais...
Évidemment.
Mais cette jeune fille, je pense qu'elle a été marquée. Et avec le recul et devenue adulte, j'en ai honte.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est, en fait... Peut-être parce que j'ai pas fait beaucoup de choses plus horribles que ça dans ma vie, en fait. J'ai essayé de chercher qu'est-ce que j'ai pu faire de terrible, et ça me paraissait être la chose la plus terrible de...
C'est là que vous avez été monstrueux, en fait.
C'est là où j'ai été monstrueux. Ouais. Je pense que c'est la chose la plus monstrueuse que j'ai faite.
Je sais pas si cette gamine saura un jour que, d'une certaine manière, vous vous êtes excusé de ça à travers ce livre, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, ce livre est aussi une ode à votre compagne, à qui on peut donner un prénom, puisque vous le donnez à la fin, elle s'appelle Pauline. Et à cette question, qu'on comprend tout à fait, évidemment, c'est est-ce qu'elle restera par amour ou est-ce qu'elle restera par devoir? Mais est-ce qu'elle ne peut pas rester pour les deux? C'est-à-dire, est-ce que l'amour aussi n'implique pas des devoirs?
Bah, c'est une très belle question que je ne m'étais jamais posée. Oui, je présume.
On ne reste pas avec quelqu'un qu'on n'aime pas.
Non, ça, on ne reste pas avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Après, c'est une belle question, franchement, qui mériterait un peu plus de temps. Je pense qu'elle m'aime énormément. Elle m'aime pour ce que je suis. Elle m'aime peut-être un peu pour ce que j'ai été et beaucoup pour ce que je suis, beaucoup pour ce que je suis en train de devenir en étant le père de ses enfants. Et elle m'assure régulièrement que si je lui plaisais moins, que si je la faisais moins rire, que si je devenais un gros abruti, elle me quitterait sans hésitation.
Oui.
Et je la crois assez cache et assez raide pour le faire.
C'est un hasard que vous soyez tombé sur elle à ce moment-là, ou pas?
C'est une chance que je sois tombé sur elle à ce moment-là.
Parce que vous étiez coureur de jupons, vous le dites assez simplement, et vous en aviez les moyens, et il vous les reste d'ailleurs, et pile au moment où ça vous arrive, en fait, vous tombez sur une fille qui est capable d'accompagner ça.
Ouais, c'est vrai que j'ai eu de la chance, et cette fille-là, son papa, est malade, il a une leucémie depuis de nombreuses années, et donc cette fille-là a été armée aussi, a été armée durant sa jeunesse, à vivre avec une personne
en sursis
et en souffrance. Et donc peut-être que c'était juste un coup de bol, et est-ce qu'on reviendrait au bon Dieu et à quelque chose comme ça dont on parlait un peu plus tôt, je ne sais pas. Moi je crois que je peux juste te dire que j'ai eu une chance extraordinaire de rencontrer Pauline.
Ça vous travaille la question d'ailleurs de la foi, du paradis, de l'après, de plus en plus? Ou bien, parce qu'on sent que vous êtes aussi rétif un peu au catho, donc il y a les deux en même temps, mais peut-être que néanmoins, une forme de spiritualité continue de se nourrir.
On se raccroche à ce qu'on peut, quoi.
Ouais.
Mais j'essaie la plupart du temps de me juger au-dessus d'avoir besoin de me rattacher à Dieu. Et parfois, je me dis, ça serait quand même cool que tout ça ait un sens. Et ça serait quand même pas mal que si moi je souffre, j'en parle dans le livre, quelque part c'est pour que ma fille grandisse avec des belles valeurs. Parce que grandir avec un père handicapé, l'air de rien, ça développe des valeurs différentes des autres enfants et des qualités différentes.
Une richesse peut-être.
Une richesse, une attention portée à l'autre, etc. Et je me dis que au pire, ce que j'ai vécu, je l'aurais vécu pour elle, pour qu'elle devienne quelqu'un d'extraordinaire. Et peut-être qu'un jour, elle changera le monde, et peut-être que c'était ça le destin, et qu'il y a un plan derrière tout ça. Mais ça, c'est dans les mauvais jours que je me rattache à ça. La plupart du temps, Dieu, je l'emmerde.
Un gros péché, la jalousie à l'égard de Guillaume Canet, moi c'est une scène que j'ai adorée, quand je l'ai lu, il n'a pas été question une seconde que je l'écarte du récit, parce que c'est bien de dire qu'on peut détester les gens à qui tout semble réussir, parce que vous-même vous mettez le bémol, c'est énervant.
Ah bah c'est agaçant, il est beau hein, cet enfoiré. Il est beau, sa femme est sublime.
Ouais.
Mais vraiment, mais c'est pas que Guillaume Canet, c'est un exemple. Puis j'ai rien contre Guillaume Canet, je l'admire tout à fait.
Ouais. Il est énervant.
Il est énervant de perfection, alors qu'on se dit que lui aussi a ses drames et ses douleurs. Mais ça m'arrive souvent de voir, mais c'est quand je suis un peu en bad. Là, je me rappelle très bien, j'étais à l'hôpital. Donc j'étais un peu en bad. Et de me dire, mais ces personnes-là, en fait, ils se rendent pas compte de leur chance extraordinaire. Quelle chance ils ont? Déjà, ils ont de la chance à la base. Ils sont beaux gosses, ils sont intelligents, ils ont du talent, et en plus ils ont des jambes qui marchent, et en plus ils ont pas de soucis apparents, même si j'imagine bien qu'ils en ont.
Ouais. Il y aura un autre livre, je pense que ça serait une bonne idée de raconter les 10 années qui suivent.
Écoutez, j'espère que je pourrai le faire.
Ça vous a traversé l'esprit?
Que je pourrais pas le faire ou que de le faire?
Que vous pourriez pas le faire,
Ça me traverse l'esprit régulièrement, ouais.
Et deux, que ça serait intéressant de raconter la deuxième partie de la maladie.
Ouais, je pense que ça serait intéressant. Et je prends des notes maintenant pour pas oublier de choses.
Pierre de Cabissol a écrit et Vivre encore aux éditions Grasset. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pierre, d'être venu débriefer votre propre histoire.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.